LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Éon AD1, 4550 millions d'années avant le présent. Événement majeur, refroidissement de la Terre, solidification de la croûte terrestre, formation des océans, grand bombardement tardif, comète, météorite. Archéen, entre 4000 et 5800 millions d'années avant le présent. Événement majeur, traces d'activité d'êtres vivants dans les océans, bactéries, photosynthèse, cyanobactéries. Protérozoïque, de 635 à 2500 millions d'années avant le présent. Ère paléoprotérozoïque, mésoprotérozoïque, néoprotérozoïque. Événement majeur, organisme archaïque, glaciation varangée, formation du continent Rodinia. Émergence du continent Columbia, premiers organismes eucaryotes, enrichissement de l'atmosphère en dioxygène, grande oxydation, couche rouge.
Dans les vestiges des anciens climats. Une série documentaire d'Aline Pénito, réalisée par Gilles Blanchard. Épisode 4, sur les traces des anciens feux. Cela commence par un son de feu de forêt qui brûle. Comme tous les phénomènes climatiques, les feux existent depuis la nuit des temps, bien avant l'arrivée des humains sur Terre. La dynamique des écosystèmes forestiers intègre les incendies de végétation, ils sont parfois même nécessaires à leur régénération. On parle alors de paléofeu. Ce son de forêt qui brûle pourrait être une forêt de la Gironde, non loin du village de Landiras ou du lac de la Motte, une forêt partie en fumée pendant l'été 2022. 32 000 hectares ont alors disparu. Parmi les nouvelles des dérèglements climatiques que nous tentons d'absorber quotidiennement, il nous est devenu familier d'entendre que là-bas en Amazonie, par ici en Australie ou là-haut au Canada, un territoire entier est parti en fumée et avec lui une bonne partie de la faune et de la biodiversité. Ce sont 65 000 hectares de forêt qui ont brûlé en Espagne en 2023. En fin d'été, alors que 1 000 foyers sont encore actifs, ce sont déjà 16 millions d'hectares au Canada qui ont disparu. Une catastrophe sans précédent dans l'histoire du Canada. Les forêts sont le second puits de carbone après l'océan. Les arbres, l'humus, la toundra absorbent et stockent le CO2 tout au long de leur croissance. En France, selon le GIEC, la capacité de stockage du CO2 par les écosystèmes forestiers a été divisée par 2 en une dizaine d'années. À quel moment vont-elles arrêter d'absorber du CO2 et, au contraire, devenir une source de carbone pour l'atmosphère ? Pour mieux comprendre la dynamique des écosystèmes forestiers sur de grandes échelles de temps, pour mieux comprendre ce qui serait de l'ordre du dérèglement anthropique ou de l'évolution naturelle des climats, les scientifiques sont allés chercher les traces de feu dans les sols, dans les sédiments, dans la boue, dans les lacs.
Mais vous sentez là en marchant l'épaisseur de ce tapis de fougères aigles, hein. C'est vraiment impressionnant. On est vraiment dans une configuration où s'il y a une étincelle, là on a vraiment toute la configuration nécessaire pour que ce type de forêt puisse brûler, quoi. On a du carburant fin au sol, on a une strate de végétation intermédiaire avec les aulnes. Vous voyez là, on a des individus là sur pied qui sont assez secs, hein. Et après, vous avez les pins qui sont déjà secs. Donc voilà, vous avez une certaine forme de continuité dans la biomasse, ce qu'on appelle un continuum en termes de combustible.
Ali Adam est paléoécologue, professeur à l'Université de Montpellier et associé à l'Université du Québec. Spécialiste des feux des forêts froides, il arpente aujourd'hui les forêts de Gironde, intrigués par l'ampleur des incendies qui les ont ravagés en 2022.
Là, vous avez un petit instrument qui sert...
Oui, c'est une sonde pédologique qui nous permet de juste d'aller, pas forcément très profond, mais à quelques dizaines de centimètres. C'est suffisant pour justement faire un premier diagnostic, de savoir quelle est la richesse potentielle de ce sol en charbon de bois. Bon, on va essayer de voir la profondeur avec cette sonde pédologique. Mais je suis agréablement surpris de la richesse en matière organique qu'on peut trouver sur ce type de sol. Voilà, vous entendez ça? Ça grince, donc il y a du sable. Ok. Ça fait à peu près 15-20 cm de profondeur.
Dans 15 cm, on a déjà des centaines d'années.
Ben oui, très fin. En fait, les charbons de bois dans les sols ne sont pas stratifiés comme dans un lac. Mais par contre, ils vont enregistrer donc plusieurs feux. Et donc, les fragments vont s'accumuler. Donc, pas de sédimentation dans un sol. Il y a juste du dépôt. J'ai un collègue qui a travaillé dans le secteur, Guillaume Lafontaine. Il a démontré que sur ce type de sol, on pouvait remonter jusqu'à 15 000 ans. Donc, il a daté des charbons de bois dans la région. Et il démontre notamment que dans la région, il y a eu des feux depuis ce qu'on appelle communément le tardiglaciaire, c'est-à-dire donc depuis à peu près 15 000 ans par rapport à l'actuel. Et il fait justement la démonstration que le feu est, je dirais, une forme de perturbation naturelle. On pourrait qualifier de naturelle dans le secteur. Donc ça date pas d'hier.
Éon paléozoïque, de 245 à 542 millions d'années avant le présent. Événement majeur, apparition des organismes multicellulaires. Ordovicien, première grande extinction de masse, disparition de plus de la moitié des espèces marines. Prédominance des invertébrés. Silurien, sortie des eaux, première plante terrestre. Dévonien, deuxième grande extinction. Disparition de nombreuses espèces marines et terrestres, amphibiens. Premier vertébré terrestre. Première plante à graines. Premiers arbres. Glaciation au Sahara. Carbonifère, insecte géant. Premier sauropside, tortue, serpent, crocodile. Premier synapside, reptile, mammalien et mammifère. Arbre primitif de grande taille. Début de la glaciation du Gondwana. Permien, troisième grande extinction dite la Grande Mort. Disparition de 90% des espèces vivantes, marines et terrestres.
Les feux naturels font partie de l'histoire de la Terre, sont récurrents. Il y a 4,6 milliards d'années, la Terre est une boule de feu. Il n'y avait pas de végétation à brûler, mais par la suite, le volcanisme, la foudre, les éclairs, l'auto-inflammation ont pu générer des incendies naturels. Certains liés au volcanisme ont contribué aux grandes extinctions.
Christian Perrenou, géoarchéologue, muséum d'histoire naturelle et responsable du site de la Grotte d'Arago de la vallée de Totavel.
La grande extinction, comme ils l'appellent, elle a eu lieu il y a 250 millions d'années. Elle a conduit à 90% de la faune marine qui a disparu et je crois 70% de la faune terrestre. Donc il y a vraiment une diminution phénoménale de la biodiversité et qui est due, selon certains, donc, à un volcanisme très important qui a induit donc, des particules dans l'atmosphère, qui a induit énormément d'incendies, certainement, et également une concomitance avec un supervolcan en Sibérie, pour certains, et puis même des météorites aussi, des pluies de météorites. Donc l'ensemble voilà, conduit à des phases de réduction dramatique de la biodiversité sur la planète, dont en partie due au paléo-incendie, mais beaucoup aux poussières qui sont émises par les volcans ou par des météorites qui vont percuter la Terre. Donc les feux naturels ont pu exister de tout temps, que ce soit avant l'apparition de l'homme et après, évidemment, l'apparition de l'homme.
Éon, phanérozoïque. Ère, mésozoïque. De 208 millions d'années à 251 millions d'années. Événement majeur, quatrième grande extinction. Disparition de nombreux vertébrés marins. Premier dinosaure, mammifère ovipare, algues calcaires dans les mers. Fin de la glaciation du Gondwana, hémisphère sud. Jurassique, de 161,2 millions d'années à 199,6 millions d'années. Événement majeur, mammifères marsupiaux. Premiers oiseaux, première plante à fleurs, division de la Pangée, le supercontinent qui rassemble la quasi-totalité des terres émergées. Crétacé, de 65 millions d'années à 145,5 millions d'années. Événement majeur, cinquième grande extinction, disparition des dinosaures, isolement de leur Amérique. Premier mammifère placentaire, isolement de l'Afrique.
La grotte de Totavel, la cône de l'Arago donc, elle mesure actuellement une trentaine de mètres de long sur une petite dizaine de mètres de large, mais presque une vingtaine de mètres de haut. L'essentiel du constituant de la grotte est de la terre, en fait, qu'on appelle les sédiments. Et quand on analyse les grains de pollen qui sont conservés dans ces sédiments, on a vraiment une confirmation que c'était une steppe très ouverte avec 80% d'herbacées, on dit des poacées maintenant, dans le paysage. Ces périodes stépiques de paysages très ouverts, très découverts, dans la cône de l'Arago, on les a retrouvées entre 410 000 ans et 450 000 ans, et entre 520 000 ans et 560 000 ans. Deux grandes périodes qui représentent à peu près 4 mètres de dépôt à chaque fois. Dans ces 4 mètres de dépôt, donc, des groupes humains sont venus. Ils étaient nomades permanents, mais de temps en temps, ils ont choisi d'occuper la grotte et ils nous ont laissé les traces de leur repas, des ossements. Et dans ces périodes où le vent amène les particules dans la grotte et où le paysage est stépique, très ouvert, l'homme a ramené le plus souvent du cheval. Il a consommé le plus souvent du cheval, un animal de paysage découvert, ça va très bien, du bison. Mais ce qui nous donne une meilleure idée de la température qu'il devait faire à l'époque, c'est le renne, qu'il appréciait beaucoup aussi, et même de temps en temps, le bœuf musqué. Donc pendant ces périodes, entre 420 000 ans et 450 000 ans, entre 520 000 et 560 000 ans, on est en phase glaciaire, en fait. À peu près entre donc 460 000 ans et 520 000 ans, on a des dépôts qui, eux, proviennent plutôt du plateau, avec des pollens qui démontrent qu'il y a un couvert végétal très important, une forêt tempérée. Et l'homme, il a chassé les animaux qu'il trouvait dans ces paysages-là, c'est-à-dire du cerf et du daim. Donc c'est vraiment une phase climatique beaucoup plus humide et surtout plus tempérée aussi que les époques plus récentes ou plus anciennes. Donc on a comme ça enregistré dans le remplissage de la cône de l'Arago, dans l'épaisseur des dépôts, une succession de phases climatiques glaciaires, interglaciaires, glaciaires, interglaciaires. Et dans toute l'épaisseur des dépôts, dans les à peu près 16 mètres de dépôts qu'il y a, dont 11 ont déjà été fouillés, on a 6 cycles climatiques enregistrés, comme ça, qui font une centaine de milliers d'années chacun, avec l'essentiel en période froide, et puis une trentaine de milliers d'années de période tempérée.
Éon, phanérozoïque, ère, cénozoïque. Période ou système, paléogène, de 33,9 millions d'années à 65,5 millions d'années. Événement majeur, nombreuses espèces de petits mammifères, cétartiodactyles, premiers primates, rongeurs. Néogène, 5,332 millions d'années à 23,03 millions d'années. Événement majeur, ancêtre commun à la lignée humaine et à la lignée des chimpanzés. Quaternaire. Époque ou série, Pléistocène. 2,588 millions d'années. Événement majeur, cycle glaciaire dans l'hémisphère nord. Extinction des mammifères géants. Arrivée de l'homme moderne.
Dans la partie sommitale de la grotte, dans le mètre supérieur de dépôt, pour les couches qui sont plus récentes que 400 000 ans, on a trouvé des charbons de bois, des os brûlés, et quasiment dans certaines couches, tous les os sont brûlés. On a trouvé des pierres qui sont rougies par le feu, d'autres des silex qui sont éclatés également par le feu. Donc, l'ensemble de ces critères, même si on n'a pas de vraies structures aménagées, de vrais foyers, de places où il y a une cuvette d'aménagée, ou des petits galets, ou des pierres qui délimitent un barbecue, on va dire, hein, l'ensemble de ces critères est quand même suffisamment consistant pour dire qu'à partir de 400 000 ans dans la grotte, l'homme connaît le feu. Est-ce qu'il le maîtrise? On n'en a pas les preuves. Alors que pour tous les niveaux, entre 400 000 ans et 560 000 ans qui sont fouillés jusqu'à présent, entre 400 000 et 560 000 ans, les 10 mètres les plus riches de la grotte n'ont pas révélé de charbon de bois ou d'os brûlés. Le premier indice assez facile pour l'archéologue, ça va être un os qui va être bruni en fonction de sa température de chauffe. Et il y a des centaines de milliers d'ossements récupérés. Et il n'y en a pas un qui est bruni. Sauf dans les niveaux tout à fait inférieurs, autour de 560 000 ans. Donc ça nous posait évidemment question quand on avait découvert ces niveaux-là. Mais ces niveaux inférieurs à 560 000 ans, ils sont très riches en matière organique. Et donc la couleur un peu brune et localisée des ossements, tout à fait au début, on pensait qu'elle était attribuable à des acides organiques, des acides humiques qui vont teinter naturellement le matériel comme dans un sol, en fait. Sauf que lors d'analyse de susceptibilité magnétique, donc une méthode pour essayer de mieux subdiviser les niveaux dans la grotte, en analysant les sédiments pour essayer de savoir quels étaient les minéraux responsables d'un pic de susceptibilité magnétique, Damien Deldic a trouvé des microcharbons de bois. Alors quand il m'a envoyé les photos, il m'a dit « Ah, j'ai trouvé des charbons, qu'est-ce que c'est que ces éléments-là » Et je me suis dit « Bon, bah, c'est les échantillons qu'il a fait dans les couches supérieures, de 400, plus récentes que 400 000 ans, 260 000 ans, etc. » Et il m'a dit « Non, non, il y en a certaines, oui, c'est là-haut, mais il y en a d'autres, c'est dans les échantillons tout en bas. » Alors là, vous poussez l'enquête, puisque c'est pas commun du tout.
Si Christian Perrenou semble si surpris par les découvertes de Damien Deldic, ingénieur au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure, c'est parce qu'elle remettrait en question la date à laquelle nous pensions que l'homme de Totavel avait domestiqué le feu. Il ne s'agirait plus de 400 000 ans, mais de 560 000 ans avant le présent. Pour savoir si ces traces de feu trouvées à l'intérieur de la grotte d'Arago sont d'origine humaine ou s'il s'agit de morceaux de bois déposés là lors d'un orage par exemple, Damien Deldic, spécialiste reconnu en archéométrie, cherche à caractériser très précisément l'origine des charbons en utilisant un magnétomètre portable.
Il est connu que les feux de foyer produisent des températures assez importantes et ce sont des températures qui sont suffisantes pour transformer les oxydes de fer en minéraux magnétiques. Donc en conséquence, la présence de minéraux magnétiques dans un sol en fait peut être indicateur d'un ancien feu. Voilà, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on retrouve aussi d'autres éléments, d'autres traces du feu comme des charbons, des os brûlés, etc., des pierres chauffées. Et aussi une preuve de l'activité d'une ancienne activité humaine. Dans la nature, il y a aussi des incendies naturels qui peuvent former des charbons et des minéraux magnétiques, comme un foyer. Si le feu a été fait in situ, en fait, les minéraux magnétiques n'ont pas bougé et sont restés statiques depuis leur formation. Et lors du refroidissement, les minéraux magnétiques, ils enregistrent le champ magnétique terrestre. Et 560 000 ans plus tard, on peut venir avec un magnétomètre portable pour mesurer le champ magnétique. avec donc ce qu'on appelle un magnétomètre. C'est l'appareil qu'on utilise actuellement, qui est très très sensible et qui peut détecter des variations de champ magnétique très faibles. C'est 0,3C.
Ouais. Avec que là ?
C'était là, oui.
Ouais, normalement, on devrait retrouver un truc du genre. On devrait passer les 1, quoi. On avait trouvé 3, 2, 10, moins 3.
Tu veux qu'on regarde l'effet de la barre ?
Christian ?
Ouais.
Tu penses qu'on peut retrouver l'endroit où on a gratté la première fois ? T'arrives à le reconnaître ou...
Je crois que c'est le. C'est pas la zone qui est un petit peu en petit creux, là ?
Là, il y a un creux ici. Ah, là, on a fait stock, toc, toc, alors ça doit être là. Il y avait un creux ici.
Un mètre ruban, mais c'était 70 cm de la base. Sauf que ça, c'est assez. Je cherche un mètre ruban.
C'est pas là ou là ?
En métal.
Là, il y a un trou. En 2016, on a découvert un premier pic de susceptibilité important dans un niveau daté à plus récent que 260 000 ans avant le présent, à un endroit où il était connu, enfin oui, il est connu qu'il y a des restes de foyers, des résidus de foyers, donc des eaux brûlées, des charbons, des lithiques et des silex impactés thermiquement. C'est clairement anthropique. Donc ce pic-là de susceptibilité-là, c'était pour nous un espèce de pic étalon, pour dire, bon voilà, si jamais on retrouve un pic qui a à peu près la même valeur dans la grotte, c'est potentiellement indicateur de la présence de l'utilisation du feu dans la grotte. Et ensuite, là, dans le niveau qui nous intéresse aujourd'hui, donc on a trouvé un pic de susceptibilité quasiment aussi intense que le premier pic, dans la partie, une des parties les plus anciennes de la grotte, qui est datée à environ 560 000 ans avant le présent. À l'endroit où on a détecté le pic de susceptibilité, on a trouvé donc des minéraux magnétiques et des charbons de bois qui peuvent potentiellement être produits par des feux, comme des feux de foyer.
En fait, c'est ça la question. Vous avez fait des mesures de susceptibilité magnétique, vous avez prélevé des sédiments, vous êtes revenu à Paris. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ?
Dans les sédiments qu'on a prélevés ici dans la grotte, on a trouvé des microcharbons. Donc on a confirmé que c'était des microcharbons avec une technique qui s'appelle la spectrométrie Raman. Donc, c'est une technique qui est très sensible aux matériaux carbonés, qui est efficace pour caractériser des matériaux organiques qui ont chauffé et qui ont carbonisé. Donc on peut l'utiliser pour caractériser des suies, des charbons, aussi de la matière organique comme de la viande ou de la graisse carbonisée qui sont encore sur les eaux qui ont été chauffées.
Et même aussi vieille que celle-là ?
Alors même aussi vieille que celle-là, mais effectivement cette matière organique carbonisée est quand même sensible à l'altération, et notamment à l'altération oxydante. Et cette altération oxydante va modifier un petit peu les spectres Raman. Mais bon, même au bout de 560 000 ans, le signal Raman qu'on détecte est toujours caractéristique de la matière organique carbonisée.
Pour aller chercher des traces de feu très anciennes, les paléoclimatologues vont chercher au fond des lacs et des océans. On a là de fines couches de sédiments accumulées sur de très grandes échelles de temps. À partir de microscopiques particules carbonées, Anne-Laure Dagneau, paléoclimatologue à Bordeaux, a fait des découvertes bien étranges, pour ne pas dire vertigineuses.
L'océan collecte du sédiment qui provient du continent. Il y a différents types de particules en fait, qui se dispersent dans cet environnement continental, qui sont transportées ensuite par les rivières et par le vent, et qui se déposent ensuite dans l'océan profond. Progressivement, ces dépôts forment des couches. Et à l'intérieur de chaque couche, on peut regarder les changements de quantité de microcharbon, de pollen par exemple, pour retracer les changements d'incendie qui se sont déroulés sur le continent.
C'est assez mystérieux pour nous quand même. Savoir ce qu'on va trouver.
c'est un morceau de carotte qui est déjà un petit peu échantillonné.
Donc elle est emballée dans du plastique.
Oui. On coupe ce tube en deux pour avoir une partie archive qu'on garde pour faire des futures analyses et une partie travail où là, tous les scientifiques qui voulaient travailler sur cette carotte-là vont prélever du sédiment en fonction des analyses. Et donc là, c'est ce que vous allez voir, c'est normalement donc un morceau de carotte qui est déjà un petit peu échantillonné. Quand je dis on échantillonne tous les 1 cm ou tous les 5 cm ou tous les 10 cm, on va couper un demi-cercle d'une épaisseur de 1 cm et on fait ça tous les 5 cm ou tous les 10 cm. Sur cette carotte-là, j'ai échantillonné en moyenne tous les 5 cm et j'ai en moyenne 400 ans entre chaque échantillon. Mais il y a des endroits où la sédimentation est plus longue dans le temps. Et du coup, tous les 5 cm, je vais avoir tous les 1000 ans. Donc c'est pour ça que j'ai des données qui sont très resserrées à certains endroits et beaucoup plus lâches à d'autres endroits.
C'est ce qu'on appelle le taux de sédimentation, c'est ça?
C'est le taux de sédimentation, oui.
Elle a même une odeur de terre. Hein.
Oui, c'est de la boue.
On pourrait imaginer qu'elle a 50 000 ans.
Oui.
Donc là, on est devant de la boue qui a 50 000 ans.
C'est ça.
Celle-ci, elle pourra encore révéler des secrets.
Oui, je pense. Et moi, j'ai travaillé sur cette carotte pour les incendies. En 2013, j'étais sur un projet de recherche qui s'attachait à comprendre en fait s'il y avait un lien entre les changements climatiques et les occupations humaines en Afrique du Sud. Et donc dans ce cadre-là, j'ai commencé à analyser des échantillons de sédiments marins. Et du coup, j'ai montré avec cette étude-là que c'était pas la sécheresse qui allait contrôler cette activité des feux, mais vraiment le combustible, la quantité de combustible.
Donc là, on est sur quelle période ?
Donc c'était entre 160 000 ans et 35 000 ans avant le présent. Et sur cette période de temps, en fait, tous les 23 000 ans, j'avais des pics de feu, je voyais des pics de feu. Tous les 23 000 ans, c'était déjà nouveau parce que c'était le premier enregistrement qui montrait clairement ça. Et là, ce qui était très contre-intuitif, c'est que j'avais des pics de feu au moment où j'avais le maximum de pluie. Et on s'attend toujours à avoir plus d'incendies quand il y a des sécheresses. Or là, c'était l'inverse. On avait plus d'incendies parce qu'il y avait plus de pluie et finalement, l'augmentation des précipitations faisait que la savane ouverte, donc c'est une savane peu arborée avec beaucoup d'herbacées. Donc les herbacées adorent la pluie. Donc dès qu'il pleut, elles poussent très vite. Et donc ça crée beaucoup de combustible pour former des incendies, pour produire des incendies par la suite. À la base, le projet, c'était vraiment changement climatique et occupation humaine. Et je ne m'attendais pas du tout à retrouver des feux tous les 23 000 ans en lien avec les changements de précession.
La précession, c'est ?
La rotation de la Terre autour du Soleil. Et tous les 23 000 ans, elle ne revient pas tout à fait dans la même position. Et donc, on a des changements climatiques liés à ça. Donc, tous les 23 000 ans, en fait, j'ai des concentrations de microcharbon dans le sédiment qui sont en très forte quantité, donc des pics d'incendie. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette cyclicité. Et j'ai commencé à comparer avec ce qui existait. Et quand j'ai mis cette courbe d'insolation d'été, l'énergie que reçoit la Terre. Et en Afrique australe, pendant ces périodes-là, il y avait une très forte énergie reçue dans cette région. Et quand il y a une très forte insolation dans l'hémisphère sud, on a des vents qui convergent et qui vont apporter les pluies en Afrique australe. Et ces pluies vont développer du combustible. Et dans ce cas-là, c'est vraiment de la végétation herbacée qui domine. Donc ce sont des savanes ouvertes avec peu d'arbres. Et cette végétation devient très dense. Et du coup, c'est vraiment le facteur combustible qui était plus important par rapport au facteur sécheresse. Donc c'était vraiment contre-intuitif parce qu'on avait finalement plus d'incendies tous les 23 000 ans quand il faisait plus humide, alors qu'on s'attendait à avoir plus d'incendies au moment de sécheresse. C'était très surprenant.
Le pin des Landes est quand même une espèce, donc le pin maritime, de son vrai nom, est une espèce qui est naturelle ici. Il faut comprendre que, oui, l'homme a restructuré finalement cette naturalité et qu'au final, oui, on a quand même des populations monospécifiques sur des très 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 grandes surfaces. On a homogénéisé le paysage pour assécher. Bien évidemment, je revois Madame Napoléon qui traverse la zone en disant c'est plus possible, il y a trop de moustiques, il faut trouver une solution pour pouvoir vivre dans cette région. Donc ils ont accentué finalement la présence du pin maritime dans la zone, quoi. Mais nous ce qu'on cherche, bien évidemment, c'est de savoir comment la zone va évoluer en termes de risque de feu dans les prochaines décennies, et aussi de voir jusqu'à quel point l'utilisation du territoire a dévié finalement la trajectoire naturelle autour de cette perturbation. Donc, pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une idée de la végétation originelle. On va utiliser cette matrice originelle pour faire de la projection, en se disant, mais voilà, la végétation originelle était celle-là, et dans une configuration de changement climatique futur, qu'on connaît tous, comment finalement cette végétation aurait évoluer et quel était le risque de feu avec cette végétation originelle. On va reprendre la végétation actuelle et on va faire le même exercice. Ça nous permettra de voir jusqu'à quel point la végétation actuelle adossée finalement à l'activité humaine, en comparaison à la végétation originelle, quelle est la déviation, je dirais, en termes de risque de feu. On fera la comparaison. La donne a changé, le climat est en train de changer. Et ce qui n'était pas forcément une problématique il y a 20-30 ans en arrière est devenu une problématique maintenant parce que voilà, on est dans une forme d'accélération au niveau du changement climatique avec des conditions qui sont en train de devenir de plus en plus sèches. Et le risque de feu, c'est une question de sécheresse. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va aller du côté de... J'ai repéré donc des zones humides. Il y a deux lacs. Il y a des méandres. Et je pense qu'on a des zones de dépôt sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour faire mes travaux de recherche.
Plus loin, bien plus loin de Landiras, la Terre tourne autour du Soleil. Et la manière dont elle tourne autour du Soleil évolue avec le temps. C'est ce qui a toujours fasciné Anne-Laure Dagneau. La Terre oscille entre une trajectoire plus ou moins circulaire ou plus ou moins elliptique, selon un cycle dit de l'excentricité de 100 000 ans et de 400 000 ans. La Terre est inclinée et son axe de rotation, oblique par rapport à son orbite, évolue sur une période d'environ 41 000 ans. Et cet axe de rotation lui-même oscille sur une période de 23 000 ans, on appelle cela la précession. Ces changements orbitaux, mis en évidence par Milankovitch, permettent de calculer l'évolution de l'influence du Soleil sur les saisons et les climats de la Terre.
Jusque-là, je crois qu'il n'y avait aucun enregistrement d'incendie qui montrait qu'il y avait un lien clair entre incendie et changements orbitaux. Il y avait des études sur l'Afrique australe qui suggéraient qu'il y a 21 000 ans, donc lors du dernier maximum glaciaire, quand la Terre était englacée au niveau du pôle Nord, il y avait beaucoup de glace sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe. Donc en Afrique australe, normalement, le climat régional était caractérisé par une grande sécheresse. Et si j'appliquais en fait ce que j'avais trouvé sur la période moins 35 000, moins 160 000, j'aurais dû avoir un climat plus humide à cette période-là. Là, j'avais un enregistrement des incendies entre moins 35 000 ans et moins 160 000 ans avant le présent. J'ai analysé plus d'échantillons dans cette carotte. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que du 23 000 ans dans la cyclicité des incendies, mais j'ai eu la surprise de trouver deux autres périodes une à 12 000 ans et une à 58 000 ans. Et ces deux périodes étaient très étranges, parce que le 23 000 pouvait être lié à la précession, mais le 12 000 et le 58 000, ce n'est pas dans les paramètres simples de Milankovitch. Par contre, en utilisant les outils mathématiques, je me suis rendu compte que quand on combine des fréquences, quand on combine la période de 41 000 ans de l'obliquité avec celle de la précession à 23 000 ans, on peut obtenir d'autres fréquences. Et donc ce 12 000 et ce 58 000, en fait, ça représente, ça reflète l'impact de l'obliquité sur le climat de la Terre. Donc finalement, ce n'est pas que la précession ou que l'obliquité, mais c'est vraiment l'influence combinée des deux paramètres. Donc à la fois les changements de rotation de la Terre et son inclinaison par rapport au Soleil qui avait une influence sur les incendies dans la région de l'Afrique australe.
C'est un petit peu vertigineux de trouver des données pareilles quand même.
Non mais j'y reviens toujours pas, enfin moi j'en reviens pas. Il y a quand même les feux en Afrique australe qui sont contrôlés par des changements qui se passent dans le bien loin de nous, quoi. Dans l'univers. Enfin, c'est impressionnant.
Donc on est dans le parc régional des Landes de Gascogne et plus exactement au lac de La Motte. Tout autour du lac, j'ai repéré des zones humides. Et donc on va essayer de voir si dans ces zones humides, on peut trouver des archives sédimentaires.
On y va ?
Allez, on y va. Vous voyez là, ce dépôt jaunâtre qu'on voit à la surface du lac. Mais c'est des grains de pollen, hein. Et on est en pleine période de décharge pollinique. Celles et ceux qui ont des allergies au pollen en savent quelque chose.
Il y a un petit bout de plastique au milieu de ça.
Ça vous donne une idée de comment, au final, la végétation est enregistrée dans ces sédiments lacustres. Ça s'enfonce très très bien. Donc, Allez, vous voyez ? Ça sent là. Si vous pouvez sentir.
Ouf, ça sent pas bon.
Ça sent la décomposition. Vous voyez les restes là ? Ce sont des restes de plantes qui vont se retrouver fossilisées dans le sédiment. Eh oui, on est dans un milieu anoxique, pauvre en oxygène, qui permet de la préservation. Regardez-moi ça. C'est pas prodigieux. Un beau fragment de charbon de bois.
Ah oui, d'accord. Donc en aplatissant sur votre main, ça fait une trace...
Une trace sombre. C'est le bon moyen de savoir qu'on est en présence d'un beau fragment de charbon. Et il y en a plein. On voit que c'est une zone qui a brûlé.
Grâce aux sédiments lacustres, Julie Allemand, chargé de recherche au Cerège à Aix-en-Provence, a pu reconstituer l'évolution des forêts et des savanes tropicales au Congo. Connaître plus précisément les dynamiques des écosystèmes forestiers de cette région est particulièrement important au regard des enjeux sociétaux actuels de ces régions. Julie Allemand a inventé des indicateurs, ou plutôt bio-indicateurs, qui permettent justement de reconstituer le climat, la structure de la végétation et l'activité des feux ces 20 000 dernières années.
Au Congo, il y a 20 000 ans, pendant la dernière glaciation, la forêt tropicale était vraiment très fragmentée avec quelques îlots forestiers. Donc la forêt tropicale, on la définit comme un écosystème, un environnement qui est fermé. On a plusieurs strates d'arbres qui vont constituer un couvert fermé. Il fait sombre en forêt tropicale, on ne voit pas grand-chose. Mais à cette époque-là, la forêt était plutôt une forêt qu'on va retrouver à l'heure actuelle en altitude, donc d'un environnement plus froid. Par contre, en savane, on a un couvert d'herbes au sol, qui est complètement continue. Par contre, on va avoir quelques arbres à l'intérieur. Donc le couvert d'arbres, ce qu'on appelle le couvert arboré, est beaucoup plus ouvert qu'en forêt. Donc après cette période de glaciation, on a les températures et les pluies qui réaugmentent. Donc il fait plus chaud, il y a plus de pluie, c'est plus humide. Donc la biomasse augmente, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'arbres et la forêt tropicale s'étend. Il y a à peu près 8000 ans, c'est ce qu'on appelle la période humide africaine. Donc c'est une période où on a un maximum de pluie, il fait très humide, il fait aussi chaud, plus chaud qu'à la période glaciaire, et donc la biomasse est beaucoup plus importante. La forêt tropicale atteint son maximum d'étendue, beaucoup plus importante aussi qu'à l'heure actuelle, et aussi on a de la savane qui monte même jusque dans tout le Sahara. C'est la période du Sahara en fait, où on avait beaucoup de végétation dans ces zones-là.
Et vers 5000 ans ?
Alors, vers 5000 ans, c'est la fin de la période humide africaine. Donc, on a une période d'aridification qui débute. Et c'est à ce moment-là qu'on a en fait une contraction du bassin forestier dans le bassin du Congo. Et aussi la savane qui recule avec la réapparition du Sahara, de la zone désertique que l'on connaît actuellement. En fait, les feux en savane vont avoir deux origines. On va avoir une origine plutôt climatique, c'est-à-dire en fin de saison sèche, au moment du début de la saison des pluies, on va avoir des orages et donc des éclairs. Et ces éclairs vont provoquer des feux de savane. Ces feux de savane, en fin de saison sèche, on imagine bien un combustible d'herbes très sec et ces feux vont avoir tendance à être très grands sur de très grandes surfaces. Ce qui se passe, c'est que quand il y a un feu, on va avoir des particules de charbon qui vont se déplacer dans l'air, dans la fumée, et qui vont se déposer à la surface des lacs. Puis ces charbons vont tomber au fond des lacs. Et c'est comme ça qu'ils vont être accumulés la plupart du temps. On peut avoir aussi une déposition secondaire lorsqu'ils se sont déposés sur le sol tout autour du lac et qu'il y a des pluies qui vont redéposer les charbons dans le lac et qui vont ensuite se déposer au fond du lac pendant plusieurs milliers, voire pendant plusieurs millions d'années. Et le fait qu'ils se déposent dans des lacs va garantir qu'ils vont être peu ou pas perturbés et donc qu'on va avoir un enregistrement complet. Et ces charbons, on arrive à les isoler, à les compter et à les identifier. Donc on peut savoir s'il y avait plus ou moins de feu dans le passé. Et en fonction de la forme des charbons, on arrive également à savoir si on avait un combustible de type herbe ou de type arbre. Donc on peut savoir si c'était plutôt une savane qui brûlait, donc un combustible d'herbe, ou plutôt une forêt tropicale qui brûlait. Par contre, c'est assez rare que la forêt tropicale brûle parce que c'est surtout une forêt très humide, mais en période de sécheresse, ça arrive et c'est arrivé également dans le passé. C'est ce qu'on reconstruit avec l'analyse des charbons. Et on a un autre type de feu, ce sont les feux d'origine anthropique du fait de l'activité humaine. Les hommes vont mettre le feu, que ce soit pour la chasse ou pour l'agriculture. Et dans ce cas-là, on a d'autres types de feux qui vont avoir lieu tout au long de la saison sèche et pas uniquement en fin de saison sèche. Il y a 3000 ans, on a eu un changement climatique assez intense, en fait une aridification assez brutale qui a fait qu'on a eu une perturbation au sein même du bassin du Congo. La forêt s'est ouverte, en fait. On a des espèces de forêts qui ont changé et on a une augmentation aussi du couvert d'herbes. Donc on n'a pas une vraie transition vers la savane, mais vraiment une perturbation forte de cette forêt tropicale. C'est aussi à ce moment-là qu'on a eu les migrations bantoues, qui sont originaires de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, qui sont des peuples d'agriculteurs, donc qui travaillaient la terre, et aussi des métallurgistes, c'est-à-dire qu'ils faisaient fondre du minerai et travaillaient le fer. Et pour ces deux types d'activités et d'utilisation des terres, on a besoin de beaucoup de bois. Pour l'agriculture, on déforeste des parcelles en forêt pour faire de la culture sur brûlis. Et pour faire fondre le minerai, on a aussi besoin de déforester des parcelles pour pouvoir justement faire fondre le minerai de fer. Et à partir de cette époque, il y a 3000 ans, on a donc des transitions autour du bassin du Congo, de la forêt vers la savane, irréversibles, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ces zones où la forêt est devenue savane sont restées encore de la savane, qui brûle régulièrement, que ce soit dû au feu d'origine naturelle ou dû aux activités humaines.
C'est quelque chose comme 40 cm, 50
cm. Ouais, 40 cm, c'est pareil, ça s'enfonce assez bien. On part du principe qu'on pourrait remonter au moins à 3000 ans. Cette période de 3000 ans, elle est vachement intéressante. Pourquoi ? C'est que c'est suffisamment loin dans le temps et pas trop. Et on a des modifications climatiques majeures qui sont très très bien documentées. On a par exemple l'optimum romain aux alentours de zéro, donc Jésus-Christ, on va dire. On a la période du réchauffement médiéval. On parle aussi d'anomalie du médiéval. C'est 1000 ans avant l'actuel. On a le petit âge glaciaire juste après. C'est Christophe Colomb, 1490. Donc voilà, on a quand même des jalons temporels comme ça. Et notamment, voilà, des périodes de réchauffement. Donc l'optimum romain, le réchauffement médiéval. Donc ça nous permet justement de voir comment la végétation et les incendies ont pu se manifester durant ces périodes-là. Et ça nous donne quand même des idées de comment la végétation a pu répondre à ces modifications, anomalies climatiques. Et ça peut nous aider à mieux appréhender le futur dans ce contexte de réchauffement global. On peut aller faire un tour à l'Andiras, et ça fait partie de l'épicentre du phénomène dans le secteur. Ils ont eu fort à faire, les soldats du feu, pour lutter contre les incendies dans ce secteur. On pourrait, j'aimerais bien aller regarder ce qui s'est passé et m'imprégner un tout petit peu de l'atmosphère de ce lieu et voir l'impact qu'a eu les incendies sur la végétation dans ce secteur.
Les méga-feux, ils se développent, ils sont de plus en plus récurrents.
C'est vrai qu'on note une augmentation des méga-feux depuis quelques années. En tout cas, dans la littérature scientifique, le terme de méga-feux est apparu en 2005, donc c'est assez récent. Alors, l'origine de ces méga-feux, on ne sait pas exactement. Souvent, c'est des combinaisons, sans doute du fait du changement climatique, avec un allongement de la saison de feu, une sécheresse de plus en plus intense et... des activités anthropiques avec une augmentation du nombre de mises à feu. Donc les deux combinés font qu'on a de plus en plus de ces grands feux qu'on appelle méga-feux. Par exemple, en Amazonie, on a entendu tous parler de la forêt amazonienne qui brûlait il y a quelques années. Et en fait, ça, c'était dû à l'augmentation de la déforestation qui fait que cette forêt, elle s'assèche de plus en plus sans qu'il y ait pour autant de conditions sèches, parce qu'à ce moment-là, c'était pas une année particulièrement sèche, mais le fait de déforester, en fait, on augmente le contact entre la forêt et les zones sèches qui sont déforestées, et ça fait que les conditions microclimatiques créées par la forêt tropicale sont de plus en plus reculées par rapport à ces bords déforestés, et donc plus ça va, plus les feux vont pénétrer. Et plus ça va, plus on a une forêt fragmentée, et tous ces petits fragments vont brûler tous en même temps du fait des activités humaines. Donc ça peut provoquer des feux qui, quand ils se rejoignent, forment un méga-feu. Après, on a aussi tous entendu parler de l'Australie, avec ses feux géants. Et ça, pour le coup, c'était une combinaison aussi de changement climatique et puis d'impact humain.
En France, maintenant, on commence à parler de saison des feux. C'est très nouveau.
Dans la littérature scientifique, non, c'est pas forcément nouveau, parce que dans des écosystèmes qui vont brûler naturellement parce qu'on a une phase dans l'année qui est sèche et un combustible qui est sec et qui va brûler, c'est des conditions complètement normales. Après, ce dont on parle de plus en plus, c'est de l'allongement de cette saison des feux, parce que la saison de feu va débuter de plus en plus tôt avec les sécheresses. Là, à l'heure actuelle, en fait, Il y a plus de 75% des nappes qui n'ont pas été rechargées suffisamment. Ça fait que la végétation va s'assécher plus tôt dans la saison et donc la saison de feu s'allonge.
Ici, on est sur la route de l'Andiras. On voit que le feu est venu dans le village. On est vraiment à proximité des habitations. Et on voit que là, il y a cette maison en face de nous, où on voit que la barrière a été léchée par le feu. Les cyprès là ont brûlé. Donc j'imagine le désarroi et l'angoisse des personnes.
Il y a des traces d'écorce un peu partout. On dirait presque que les arbres ont explosé.
Ah oui, on voit aussi les cônes hein, qui sont ouverts au passage du feu. Rien n'est resté. Hein. On voit encore on voit les individus qui sont encore debout, mais du moins les individus calcinés sont complètement morts. On est dans une configuration de changement climatique. Et ça, c'est prouvé. Il n'y a même plus à discuter. Donc les climato-sceptiques, il faut qu'ils aillent se recoucher. Et c'est pas possible. On a tous les indices qui nous montrent que on va vers des conditions de hausse des températures, il y aura moins d'eau dans les nappes phréatiques, il va faire beaucoup plus sec, et on a du combustible. Donc, bout à bout, bien évidemment, le risque de feu va augmenter. C'est pas une question est-ce que ça va brûler, c'est quand ça va brûler dans certains secteurs. On est des lanceurs d'alerte, mais... Des fois, on a l'impression de prêcher dans le désert, mais bon...
Au nord, beaucoup plus au nord, les forêts boréales brûlent aussi. Damien Rius, paléoécologue à l'Université de Franche-Comté, s'est rendu de très nombreuses fois au Groenland, au Labrador ou à l'est du Canada. Il cherche à comprendre les interactions entre les activités humaines, le climat, la végétation et le feu, tout au long de l'Holocène, les 10 000 dernières années.
Ma première prise de contact avec ces forêts boréales, c'était à l'occasion d'une campagne de terrain à l'été 2019 au Québec et au Labrador. Et la première chose qui frappe en tant qu'Européen, habitué à nos forêts françaises qui sont très morcelées, qui sont de petite surface, bah c'est l'immensité de ces territoires. Hein. On reconsidère ce qu'on appelle une forêt très clairement quand on parcourt ce paysage-là, parce qu'on fait des centaines et des centaines de kilomètres en voiture. Et on ne sort pas de la forêt. Donc on reconsidère ce qu'on appelle une forêt et on reconsidère aussi ce qu'on appelle un feu de forêt.
C'est quoi les caractéristiques climatiques de ces endroits-là ?
On est entre la zone tempérée qu'on connaît nous et la zone arctique, on va dire. C'est ce qu'on appelle la zone boréale. C'est une période végétative assez courte, donc c'est-à-dire le temps pendant lequel les végétaux peuvent pousser. Des hivers qui sont très longs. Et des conditions de sol qui sont aussi complexes, puisqu'il y a toute une partie de ces forêts boréales qui poussent dans des endroits où on a du permafrost, c'est-à-dire des sols gelés en permanence. Et des quantités de neige qui sont importantes aussi. Ça contraint très fortement le fonctionnement de ces systèmes, ça contraint également les perturbations naturelles, à savoir les feux de forêt par exemple.
On peine à imaginer que ces forêts puissent brûler.
Oui, parce qu'on parle de forêts froides, donc forcément... Et pourtant, elles brûlent. Ça, il y a quelque chose d'antinomique avec le feu, mais c'est des foies de résineux qui sont quand même plus inflammables que des feuillus. C'est aussi des étendues où on a une continuité en termes de forêt, spatialement parlant, qui est très importante. Quand vous avez les conditions nécessaires réunies pour l'incendie, bah, quand ça part, ça part. L'augmentation de la fréquence des feux est... L'augmentation de l'occurrence de ces méga-feux peut avoir des conséquences assez néfastes, à la fois pour ces forêts évidemment, et puis pour le climat. Quand on considère les incendies à des échelles, on va dire, continentales, et des feux de très grande ampleur, comme on a pu en connaître au Canada plusieurs millions d'hectares, vous passez la forêt boréale nord-américaine de son rôle de puits de carbone. 30% de la surface forestière mondiale et 20% du puits de carbone forestier mondial. C'est-à-dire que là, le stock du carbone vers un rôle source de carbone où elle va en émettre plus qu'elle en stocke. Parce qu'évidemment, ces incendies, quand on brûle des millions et des millions d'hectares, eh ben, c'est autant de carbone qu'on émet dans l'atmosphère.
Éon, phanérozoïque, ère cénozoïque. Période ou système, quaternaire. Époque ou série, holocène, 0,0117 millions d'années. Événement majeur, agriculture et sédentarisation. Phanérozoïque, ère cénozoïque. Période ou système, quaternaire. Époque ou série, anthropocène, 0,0003 millions d'années. Événement majeur, création de la machine à vapeur.
En tant que paléoécologue, vous travaillez sur des temps longs, vous observez des phénomènes naturels, et puis là, il y a quelques petits indices qui sont un petit peu inquiétants.
Alors c'est sûr que quand on étudie ces systèmes, que ce soit sur le temps long ou le temps court, hein, en tant qu'écologue ou paléoécologue, on sait que on a beaucoup parlé d'incendie, que l'incendie n'est pas forcément la catastrophe écologique qui est décrite tous les étés au journal télévisé à chaque fois qu'on en a. On sait bien que ces incendies font partie du fonctionnement des écosystèmes, de la régénération de certaines espèces, de certaines forêts, tant qu'il y a une certaine forme d'équilibre entre ces régimes de perturbation et la forêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le contexte de réchauffement climatique qu'on connaît, on a une multiplication, notamment des méga-feux dont on a parlé, qui mettent un peu en péril cette capacité de régénération des forêts, quoi. Donc si on a à la fois plus de feux de très grande ampleur et des feux plus fréquents, là on sort d'une variabilité naturelle telle qu'on l'a connue sur les 10 000 dernières années, qu'on est capable de reconstituer, et ça devient inquiétant pour le devenir des forêts et pour le rôle que ces forêts jouent sur le climat. Donc ça, c'est sûr que ça nous interpelle. Moi, ce qui m'interpelle aussi en tant que chercheur et citoyen qui travaille sur ces questions d'incendie, c'est de voir autour de moi, là, ces derniers temps, des types d'écosystèmes où on a des feux qui ne brûlent pas habituellement, qui commencent à brûler. Donc on a eu des feux dans le Jura l'été dernier, on a eu des feux en Bretagne, on a eu des feux dans l'Ain il y a 2 ans. Donc ça, oui, c'est très inquiétant parce que ces systèmes-là ne brûlent quasiment jamais. Probablement que l'origine de ces incendies est d'origine humaine, mais ils ne se seraient pas déclenchés et ils n'auraient pas pris une telle ampleur si on n'était pas dans des conditions de sécheresse telles qu'on les a connues au cours des canicules de ces 2 derniers étés.
C'était Dans les vestiges des anciens climats, épisode 4, sur les traces des anciens feux. Avec Anne-Laure Dagneau, Ali Adam, Damien Rius, Julie Allemand, Christian Perrinou et Damien Deldic. Lecture Hervé Pierre. Prise de son Geoffrey Marianne, Gilles Blanchard. Stagiaire, Myriad Izard. Mixage, Antoine Viosa. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran et Johanna Bedeau.